mais voilà, tu vois plus clair. Tes culottes sont devant derrière. Quand même qu'on est habitant, faut montrer qu'on a du bon sang. Va donc mettre ton prince Albert pour aller à Saint-Hubert. On partira le cœur content, pareil comme deux jeunes amants. M'a changé de nom, mon Jean, puis m'a appelé l'air sang. Petit rouge, l'air sang, petit pite, l'air sang, petit gus, l'air sang. Moi, je trouve ça du bon sang. C'est les culottes, l'air sang, les pyjamas, l'air sang, brassière, l'air sang, la tière, l'air sang. Tout le monde parle de l'air sang. Ma belle-mère qui est en arrière.
Ma belle-mère.
Ma belle-mère.
Alors, Serge, la venue du R100 à Québec, est-ce que ça a rapport avec une belle-mère?
Non.
On entendait la Bolduc.
Oui, c'est ça. Écoutez, la Bolduc, c'est pas la seule qui fut inspirée par cet aréostat ayant fait escale au Québec au début des années 30.
Oui, le ballon dirigeable.
Comme le Hindenburg qui a brûlé à New York vers la 36, je pense, à peu près, 1936 à peu près. Alors, ça a marqué l'imagination de la population québécoise et celle du monde entier. Et ce fameux R100 a attiré beaucoup de foule et en a fait jaser plus d'un. Alors, la petite histoire. On est en 1926. Le Parti libéral de Mackenzie King au pouvoir annonce que, à la suite de la conférence impériale de Londres, la construction d'un aérodrome dans la ville de Saint-Hubert, à proximité de Montréal, sera entamée sous peu. On érigera un mât d'ancrage long comme deux terrains de football, 220 mètres.
On parle beaucoup de terrains de football aujourd'hui. Ah oui. Les tomates d'Isabelle, le R100 de Serge.
Au coût $1 million, soit l'équivalent de 13 millions aujourd'hui. Alors, mais pourquoi tout ce cirque pour un simple ballon gonflable et qui plus est en pleine crise économique parce que c'était en 1929, il y a eu le fameux crack de la bourse.
Moi, je vois le ballon qu'on voyait sur la pochette de Led Zeppelin.
Ouais, ouais.
Le Zeppelin.
Le Zeppelin, qui s'appelait Zeppelin, justement. Ouais.
Construit par la compagnie Vickers, un conglomérat d'ingénierie britannique, le R100 était considéré comme une création capitaliste. Alors que son frère volant, le R101...
Son frère volant.
Oui.
Pas la sœur volant.
Oui, ça n'en est pas loin.
Monté par une société d'État travailliste, était vu comme une embarcation socialiste.
Ah bon?
Tu sais, on se...
T'as pas soufflé avec la même air.
Non. C'était une vraie course contre la montre, alors que les deux équipes, travaillant dans le plus grand des secrets, s'acharnaient à la construction et à l'élaboration de leurs vaisseaux respectifs, lesquels serviraient à exécuter des vols d'essai vers le Dominion du Canada, parce qu'à ce moment-là, on était un Dominion du Canada. On n'était plus une colonie, on était Dominion, puis après ça, un pays. Et vers les Indes, qui était à ce moment-là la grande colonie de l'Empire britannique.
Qu'on appelait les Indes à l'époque.
Les Indes, oui.
Les Indes?
Les Indes. Établir des vols commerciaux rapides et efficaces de façon bi-hebdomadaire entre l'Empire britannique et ses territoires éloignés. Alors, il faudra cependant attendre janvier 1930 avant la mise en place du projet. C'est le ministre de l'Air britannique de l'époque qui trancha. Alors, pour des raisons techniques, certes, mais plutôt politiques, le R100 allait planer vers le Canada, tandis que le R101, embarcation chouchou de la presse londonienne, se dirigerait plutôt vers les prestigieuses Indes, la destination la plus importante. Pourtant, cela n'atténuera en rien le charme et la prestance du dirigeable à son arrivée au Canada. En effet, son voyage complet et son apparition en sol canadien furent diffusés en direct, à la radio, d'un océan à l'autre, et alors que pendant ce temps, des trains bondés de gens arrivaient toutes les heures à la petite station de train de Saint-Hubert, où le CN fut contraint d'ajouter des voies. Et que dire du pont Jacques-Cartier, lequel se nommait à ce moment-là le pont du Havre?
Il y avait beaucoup de monde sur le pont.
L'aéronef demeura amarré pour un total de 12 jours à Saint-Hubert, alors que plus de 3000 personnes de tous les rangs et de tous les âges le visitèrent avec un plaisir enfantin, avant de reprendre sa route vers Ottawa pour finalement rentrer en Angleterre le 13 août 1930. Mais figurez-vous qu'il s'agira du seul et unique voyage du mastodonte gonflable en terre canadienne.
Ah oui, pourquoi?
Ouais. Je vais vous expliquer ça. Par contre, si l'inauguration du R100 et son périple furent un franc succès, cela ne fut point le cas pour le favori des Britanniques, soit le R101, le travailliste là.
Ah.
À l'automne de cette même année, Seulement quelques heures après le coup d'envoi de son vol inaugural vers les Indes, ce dernier s'écrasa près de Beauvais en France. Alors, à la suite de ce drame, le gouvernement britannique cessa le projet aéronautique des dirigeables, démontant même celui que l'on surnommera le Titanic des airs, rien de moins. Mais malgré cela, malgré sa fin quelque peu abrupte, le R100, véritable palace volant, représentera pour plusieurs un des plus grands événements du 20e siècle.
Mais là, il n'y a pas eu de victimes, là.
On dit qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des blessés, mais on dit ça a fait plusieurs victimes.
Pas comme
mais
dans le Titanic.
Non. Ben, espérons. Alors, le plus gros dirigeable du monde a décollé de Cardington le 28 juillet 1930 avant de s'attacher au mât d'ancrage de l'aéroport de Saint-Hubert le 1er août, soit 78 heures et 49 minutes seulement après son départ. Le trajet transatlantique de 5400 km se fit sans problème jusqu'à ce qu'il atteigne le fleuve Saint-Laurent. En effet, après une traversée sans encombre, une importante tempête remontant le fleuve le secoua dangereusement, déchirant du coup son enveloppe de lin, qui fut heureusement rapidement réparée. Vers 18 heures, le jeudi 31 juillet, on a pu le voir lentement passer au-dessus de la ville de Québec, avant de plonger environ 2 heures plus tard vers Trois-Rivières, s'engouffrant dans une seconde tempête, le faisant piquer du nez à environ 30 degrés. De quoi donner une bonne frousse aux 46 passagers et membres d'équipage à son bord.
Ah, il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Bien, il y en avait, là, mais c'était 46, pas comme...
Non, comme
les
appareils géants d'aujourd'hui là, qui ont des...
Parce qu'on parlait du Titanic tantôt,
ouais.
Là, ça n'a rien
mais
à
maintenant, tu as des avions là, qui sont... 300, 400 personnes, des monstres.
Et même plus.
Alors, il y a un témoignage en terminant d'une dame, Madame Larocque, qui dit « Ça faisait assez drôle d'imaginer qu'il y avait du monde là-dedans, qui nous passait au-dessus de la tête. On n'était pas les seuls qui s'étaient rendus à Saint-Hubert pour le voir. » Elle dit « J'ai rarement... » Tu sais, c'est vraiment un commentaire, c'est la bonne madame, là. « J'ai rarement vu autant de monde réuni pour voir s'accrocher un ballon sur un poteau.
Oh. » Madame Larocque!
Nos mères auraient dit ça, tu sais.
Peut-être.
Oui. Comme tant d'autres, elle a gardé un
merveilleux... Peut-être que oui, peut-être que non.
Oui. Comme étant d'autres, elle a gardé un merveilleux souvenir du R100, se balançant à cette tour construite spécialement pour lui. Et ce n'est pas étonnant. Saviez-vous que la venue du fameux R100 à Saint-Hubert, le plus gros aéronef du monde à l'époque, est de nos jours relaté comme étant l'événement touristique le plus important de toute l'histoire de la Rive-Sud? Il faudra attendre l'Expo 67 pour vivre à nouveau l'euphorie de tels rassemblements sur le territoire québécois. De quoi rester marqué. C'est un article d'une revue Nostalgie de 2021 que j'avais en réserve. C'était acheté durant la pandémie. C'était ma réserve. J'en ai une coupe comme ça en réserve.
Toujours d'actualité.
Un article de Carole-Anne Deslebeaux.
La venue du R100 à Québec en 1930. Mmh. Histoire passionnante et aussi rigolote.
Oui.
D'une certaine façon.
Oui, c'est ça.
Merci, Serge. On écoute une chanson du groupe, un faux groupe de chanteurs, au retour, et ce sera la chronique de Daniel, La Chance.